Philippe Vandel.
Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le journal de la culture, journal qui commence, Hélène, hélas, par deux tristes nouvelles. Et c'est tombé il y a quelques minutes. Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, est décédé.
Et oui, annonce à l'instant de la famille. Il était âgé de 92 ans. La famille indique Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines. Alors je rappelle qu'Albert Uderzo a donné naissance au personnage d'Astérix en 1959 avec son ami René Goscinny, décédé lui en 1977. Ils ont publié ensemble 24 albums d'Astérix. Albert Uderzo avait décidé de céder le flambeau et d'offrir de nouveaux papas aux personnages Jean-Yves Ferry et Didier Conrad en 2011.
Et puis on l'a appris ce matin également, le célèbre saxophoniste Manu Dibango est décédé des suites du coronavirus.
Célèbre Soul Makossa, sorti en 1972. Triste nouvelle annoncée par sa famille qu'il nomme le Papy Groove. Il était âgé de 86 ans. Sa contamination a été annoncée le 18 mars. La famille précise qu'un hommage lui sera rendu ultérieurement. L'artiste camerounais était en tournée l'an dernier pour célébrer ses 60 ans de carrière avec son safari symphonique où il mélangeait jazz et musique classique. Véritable figure du jazz, de la musique africaine, de l'afrobeat. Il a reçu le 14 mars 1986 la médaille des arts et des lettres par le ministre de la culture de l'époque, Jack Lang, et la Légion d'honneur en 2010.
Et puis on continue ce journal avec un artiste qui est sorti du silence hier. Hommage pour rendre hommage, pardonnez-moi, à ceux qui sauvent nos vies.
Oui Philippe, cet artiste, il est rare, c'est Jean-Jacques Goldman. Il a souhaité rendre hommage à celles et ceux qui restent mobilisés, qui travaillent pendant cette épidémie. Alors en vidéo, face à sa webcam, il a décidé de reprendre un titre, son titre, Il changeait la vie, en le transformant pour qu'il devienne Il sauve nos vies.
Des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides-soignants, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés. Mais leur propre raison, ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Ils sauvent des vies.
Une vidéo partagée dans l'après-midi qui a tout de suite été extrêmement commentée. Il y a eu aussi beaucoup d'émotions. Le public a tenu à remercier Jean-Jacques Goldman pour cette prise de parole. Jean-Jacques Goldman qui termine cette vidéo par une succession de merci. Merci à tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui donc sauvent nos vies.
Le groupe Indochine décide de mettre en ligne l'intégralité de l'un de ses concerts.
Rappelle des souvenirs,
mais évidemment,
Philippe, cette
chanson. Mais ça, c'est pas le concert, ça, c'est la version
mais
vintage.
J'adore, on se met dans l'ambiance.
Merci.
On se met dans l'ambiance.
Merci pour ce petit cadeau.
Et voilà, c'est un cadeau. Le groupe a décidé de mettre à disposition sur YouTube son concert à Lille le 23 juin dernier, la dernière date de leur tournée, le 13 tour, concert donné au stade Pierre Mauroy. Ils ont précisé que ce concert était, je cite, pour tous les soignants et personnels médicaux mobilisés 24 heures sur 24, pour les autres, policiers, routiers et tous ceux qui travaillent, pour nous tous confinés pour les aider. Nous sommes forts, soyons tous solidaires. Alors, un concert mis à disposition jusqu'au 30 mars, 3 heures quand même, de concert où le groupe interprète tous leurs plus grands succès. Indochine qui a donné également rendez-vous à son public le 2 avril, sûrement pour fêter leurs 40 ans de carrière.
Et puis, il fallait s'y attendre. Hélas, le Festival des Nuits Sonores est reporté.
Oui, il devait se dérouler à Lyon du 19 au 24 mai prochain. Les organisateurs de ce festival électro ont donc décidé hier de reporter l'édition au mois de juillet, du 22 au 26. 4 jours, 3 nuits, la programmation définitive du festival sera dévoilée le 16 avril. Les passes et les tickets déjà achetés seront valables aux nouvelles dates, évidemment. Et pour celles et ceux qui ne sont pas disponibles en juillet, ils seront remboursés. Toutes les modalités seront communiquées mi-avril.
Et puis, il n'y a pas que le macro, il y a aussi le micro. une belle initiative dans le département de l'Eure pour sauver une librairie associative.
Oui, relayée par nos confrères du Parisien, prenons la direction de Bernay, une librairie associative qui s'appelle Le Rouge et le Noir, a dû fermer ses portes suite aux consignes de confinement. Alors pour continuer justement à faire vivre la lecture et l'esprit de la librairie, les personnes de l'association ont décidé de déposer les ouvrages dans les commerces de première nécessité qui sont autorisés, supermarchés, épiceries, tabac, pharmacies, boulangeries. Les lecteurs deviennent donc, je cite, les passeurs de livres. Ils prennent et ramènent. L'association Le Rouge et le Noir qui se qualifie aujourd'hui comme un sirop de la rue pour mieux sucrer nos journées avec de la lecture et ne pas les passer intégralement devant les actualités en continu.
Comme c'est joliment dit, merci Hélène Manarino. On vous retrouve demain pour le Journal de la Culture.
À demain Philippe.
Et nous, avant de poursuivre l'émission, on écoute Les Innocents. Le titre, c'est Apache.
Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours, ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes.
Innocent avec Apache sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Éric Orsenna.
Mais bonjour Monsieur Vandel.
Mais bonjour, vous êtes académicien, prix Goncourt 88 pour l'exposition coloniale. Avant cela, le grand public vous a connu comme rédacteur, auteur des discours de François Mitterrand, le président. Vous êtes très engagé dans la culture. Quelques-uns, évidemment, on reconnaît bien là votre modestie proverbiale, quelques-uns des petits, mais surtout pas les gros, les importants. Vous êtes engagé dans la culture, la langue française et la grammaire, et je le rappelle, La grammaire est une chanson douce, livre signé par vous, dont on disait que c'est un sujet qui n'intéresse absolument personne, 1 700 000 exemplaires vendus, et vous êtes également ambassadeur de l'Institut Pasteur, on va en reparler. Vous publiez un nouveau roman, au titre magnifique, Briser en nous la mer gelée, c'est chez Gallimard. C'est une histoire d'un amour fou, comme une passion adolescente, puis d'un divorce, sauf que le héros à quel âge ?
Le héros a 65 ans.
D'accord. C'est quoi la jeunesse de ce livre ? Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire cette histoire impossible ?
Vous savez, moi, j'écris quand je ne comprends pas.
Ouais.
C'est pour vous dire que les sujets ne manquent pas.
Ouais.
Puisque plus j'avance, moins je comprends, donc plus j'ai de sujets, donc plus j'ai besoin d'écrire pour comprendre. Donc je ne comprenais pas comment j'avais manqué un amour magnifique.
Ouais.
Et donc, ma façon, moi, de comprendre, c'est d'écrire.
D'accord.
Et ma façon d'essayer d'expliquer des choses, c'est de raconter. Parce que mes parents me racontaient sans arrêt des histoires. Et donc, c'est par les histoires que j'arrivais à comprendre un petit peu le monde.
Alors, ça
comme je ne comprenais pas l'échec de cet amour, je me suis dit, je vais le raconter.
Alors, ça commence comme ça, je vais un peu expliquer. C'est un type, ce monsieur, qui écrit à la juge qui a prononcé son divorce. Et voici leur dialogue. « Quand avez-vous compris, demande la juge, qu'il n'y ait plus d'issue ?»« Dès que je l'ai vu, dit-il. Et quand avez-vous quand même décidé de l'épouser ?» Non, pardon, et vous avez quand même décidé de l'épouser, lui demande-t-elle, et il dit, c'est pour ça que j'ai décidé. En fait, vous êtes un grand maso ?
Non, je ne suis pas un maso, j'essaye toujours, ce qui n'est pas difficile, puisque j'ai à peine 1m73, de m'affronter à des réalités plus grandes que moi, et à des femmes plus belles que moi, ce qui n'est pas du tout difficile, sauf que cette femme-là est absolument sublime.
Ouais.
Donc je me disais, ben, on va essayer, et puis... Contre toute attente, elle a dit oui.
Ouais.
Alors,
pardonnez-moi. Oui, l'attente fut courte, parce que c'est ça qui m'a plu dans cette histoire. L'attente fut très courte, parce que vous la demandez en mariage au deuxième dîner.
Ben, bien sûr, parce que je me suis dit que là, c'était pas possible, quoi. Je veux dire, il fallait. Non, c'était pas une petite aventure. Vous savez, il y a des fois, vous avez toutes les cloches qui sonnent en vous et qui disent oh là 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 là, là c'est tout à fait autre chose.
Ouais.
Et donc, je me suis dit non, c'est elle ou c'est personne. Et puis, on suivit 4 années qui ont été assez éprouvantes. Et puis, donc, on a divorcé. Mmh. Et puis, cette juge absolument magnifique, qui est vraie, qui existe, cette juge nous a dit « Vous voulez vraiment divorcer parce que je sens beaucoup d'amour en vous.
Ouais. »
Et donc, c'est une question qui m'a passionné parce que, comme maintenant, tout est automatique et qu'on n'est pas obligé de passer devant le juge quand on divorce, ce qu'on appelle un consentement mutuel,
ouais.
D'abord, on est moins protégé. Et puis, vous n'entendez pas ces phrases qui vous dites « Mais... au fond, et si on s'aimait ? » Et c'est cette phrase qui nous a traversé la tête et nous a habité, nous a hanté, nous a accompagné.
Mmh.
Et puis c'est grâce à cette phrase de la juge qu'un an plus tard, nous nous sommes retrouvés.
Voilà. Le problème, à un moment donné, c'est quand même l'âge du mari et aussi le choix d'un lit pour un nouveau couple. Je vous cite, et je cite vos parallèles. « Elle avait fini par s'endormir. Je m'apprêtais à l'imiter. Quand ses plaintes reprirent, d'autant plus gênantes pour moi, ces plaintes que je ne pouvais pas ne pas me demander si elle ne s'adressait qu'au matelas. » Trop mou, bien trop mou.
Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut être quand même réaliste avec l'âge et en dépit de l'appui de la chimie,
ouais.
Il faut quand même être réaliste un peu et dire des choses.
Ouais.
Vous savez, c'est exactement ça. Si on ne va pas au bout d'un livre, si on n'est pas assez franc dans un livre, on n'écrit pas des livres pour avoir des carapaces. Au contraire, on écrit des livres pour essayer de briser l'armure et de se montrer tel qu'on est, c'est-à-dire fraternel, parce que, vous savez, plus ça va, plus j'adore avoir tort. Parce que quand j'ai tort, ça veut dire que j'avance. Quand j'ai raison, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien d'avoir raison. C'est d'avoir tort qui permet d'avancer.
Vous parlez d'armure, Eric Orsenna. On découvre que le mari est un homme battu, sa femme lui met carrément des coups de poing. Ça, vous l'avez inventé.
Pas complètement, parce que une raison simple, c'est qu'elle avait besoin de dormir. Elle a énormément besoin de dormir. Et moi, j'ai peu besoin de dormir, ou au contraire, d'une autre manière, je morcelle mon silence. Mon silence, vous voyez ?
Ouais.
Je morcelle mon sommeil, parce que, comme j'ai l'habitude d'être marin, donc je peux dormir par petites bribes de 2 heures.
Mmh.
Et elle, si elle n'a pas 8 heures d'affilée, ça ne va pas du tout.
Non, mais ce n'est pas une raison pour vous taper dessus. C'est pas une raison pour vous taper dessus.
Ben si, parce que quand vous êtes réveillé en pleine nuit, toutes les cruautés vous seront permises. Et à moi d'aller ailleurs, quoi. C'est vrai que... Voilà, non, mais je ne suis pas
marié. Dites donc, ça va, vous imaginez... Eric Orsenna, vous imaginez si vous étiez une femme et elle un homme ?
Ah bah ben, évidemment, non, mais moi j'aurais été traîné parmi devant les tribunaux.
Ouais.
Et d'ailleurs, on a été traîné devant le tribunal, mais c'était un autre tribunal. Et avec une juge, je le répète, extraordinairement bienveillante.
Vous comparez les mariages aux algorithmes des plateformes numériques genre Netflix ou Amazon, et là, je n'ai pas compris quel rapport.
Bah, c'est qu'il faut essayer de trouver vraiment son histoire à soi. Pardon.
Ouais.
Il faut trouver son histoire à soi. Il faut avancer petit à petit, et surtout essayer de bien se rendre compte que l'autre n'est pas soi-même, et c'est justement parce qu'il n'est pas soi-même que c'est passionnant d'être à deux, sans se perdre, mais en découvrant quelqu'un qui est dans la diversité. C'est exactement comme la vie. Et puis, à quoi ça sert ? Et c'est pour ça ce titre que j'ai emprunté évidemment à Kafka.
Mmh.
Vous savez qu'il y avait cette phrase incroyable qu'il faut... Tout livre doit être une hache pour briser en nous la mer gelée. C'est plus qu'un amour s'il ne brise pas en nous toutes les mères gelées que nous continuons de porter depuis l'enfance. C'est ça un amour, c'est la chaleur.
L'héroïne du livre travaille sur les chauves-souris, des animaux passionnants du point de vue scientifique, et j'ai appris grâce à vous, car ils hébergent toutes sortes de parasites sans jamais tomber malade. Et là, je vous lis, l'amour transporte avec lui des virus qui pourraient le détruire, le virus de la peur, la peste de la jalousie, etc. Évidemment, vous avez écrit tout cela avant le coronavirus.
Alors moi, je vais vous dire, les premiers critiques sur ce livre, c'est débile, pourquoi avoir choisi à cette héroïne ce métier de chauve-souris, etc. Or, il se trouve que je travaille depuis 5 ans à l'Institut Pasteur.
Vous êtes ambassadeur.
Je suis l'ambassadeur.
Exactement.
Parce que je suis au fauteuil de Pasteur à l'Académie française, donc j'ai écrit une biographie de Pasteur. Et avec cette femme, nous avons écrit justement la géopolitique des moustiques. Mmh. Et donc, on est assez bon, elle est médecin, on est assez bon dans la question des pandémies, assez bon dans la question des parasites. Donc, je me suis dit, c'est passionnant de changer un tout petit peu son métier, de ne pas en faire un médecin, mais d'en faire un vétérinaire passionné par la chauve-souris. La chauve-souris a le système immunologique le plus performant dans toute la création,
ouais.
Parce qu'elle peut accueillir des saloperies de virus et s'en trouver très très bien. Le malheur, c'est qu'elle les transmet à d'autres animaux qu'ils nous les transmettent à nous. Et ce mécanisme-là, qui était considéré comme complètement débile, les mêmes critiques ont dit « Ah là là, on voit bien, mais quelle vista, mais tout ça, etc. etc. » Moi, j'adore ces retournements de veste, parce que vous savez, il n'y a pas seulement dans la politique qu'il y a des retournements de veste, les critiques littéraires en sont des adeptes avec une grande efficacité, une merveilleuse souplesse.
Oh là là, vous avez raison. Et aussi dans la politique, avant de vous demander ce que vous inspire le traitement politique de cette crise du coronavirus, parce que vous connaissez très très bien la politique, on va entendre celle qui était encore ministre de la Santé nous en parler, c'est Agnès Buzyn. Elle voulait nous rassurer, c'était le 24 janvier dernier.
En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
Risque nul ou très faible, réaction Éric Orsenna.
Bah, vous savez, jeter la pierre est facile. La prévision est un art difficile, surtout
quand elle concerne l'avenir. C'était Chirac qui disait ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, alors, je veux dire le sens de ma question, est-ce qu'il n'y a pas là une impéritie terrible ? Pour ne prendre qu'un exemple, on nous a expliqué que les masques ne servaient à rien, avant de nous dire qu'il y a une pénurie, depuis quand manque quelque chose qui ne sert à rien ?
Écoutez, c'est vrai qu'il y a eu des manques. Moi, je vais vous dire que face à cette épidémie dont personne ne mesurait l'ampleur, je vous rappelle que l'OMS n'a déclaré que très très tard la situation de pandémie. Mmh. Je trouve que jeter la pierre aux autorités françaises politiques et sanitaires est vraiment pas le propos. Et je trouve qu'ils font preuve vraiment de responsabilité, d'action et de détermination.
Pourtant, je vous ai entendu dénoncer ce que vous appelez l'effet Tchernobyl. C'est quoi l'effet Tchernobyl, Éric Orsenna, selon vous ?
L'effet Tchernobyl, c'est de penser que les drames, les catastrophes s'arrêtent aux frontières. Moi, j'ai connu ça parce que j'étais à l'Élysée quand la catastrophe de Tchernobyl est arrivée. Et c'est vrai qu'il y a eu des sortes d'annonces pour rassurer la population. On dit non, ça va s'arrêter, le nuage va s'arrêter au Rhin.
Je me souviens très
évidemment,
bien, le professeur Pellerin qui était passé sur TF1 pour nous rassurer qu'en substance, le nuage ne va pas... Allez-y, Eric.
Oui, vous savez ce qui me frappe. Moi, je vais publier dans 2-3 jours sur le site gratuit de Gallimard un texte qui s'appelle « L'unité de la vie ». Considérer qu'il y a des frontières dans le domaine de la vie, ça n'existe pas. Et qu'il y a un concept que nous défendons à l'Institut Pasteur, mais aussi à l'OMS et un peu partout, c'est le concept de la santé globale. Et que tout ça est lié, tout ça est relié, intimement relié. Quand vous avez des environnements qui vont mal, le règne animal dans son ensemble va mal, et quand les animaux ne se portent pas bien, évidemment les êtres humains qui font partie du règne animal ne vont pas bien du tout. Donc il y a une liaison. Vous savez, on est dans une solidarité de fait. Moi, je suis marin. Et c'est incroyable à quel point La navigation vous apprend des choses. Elle vous apprend d'abord l'humilité, parce qu'on ne doit pas être plus fort que la mer, autrement on est un imbécile et on va vite mourir. Et puis on est dans l'équipage. Et dans l'équipage, c'est le plus faible qui décide de la valeur de l'équipage. Ce n'est pas le plus fort. Ouais. Et là, Bertrand Badie dit des choses formidables, cet essayiste politologue. Il dit des choses très, très passionnantes en disant que notre vulnérabilité, c'est les plus faibles. Les premiers de cordée, on en a peut-être besoin. Mais qu'est-ce qui nous rend fragiles ? Ce sont les plus faibles, évidemment.
D'accord.
Donc c'est toutes ces questions-là, moi, qui me passionnent en ce moment.
Eh bien, c'est passionnant. Malheureusement, on doit s'interrompre maintenant. On va vous réentendre bientôt. C'est publié dans 3 jours sur le site gratuit, nous avez-vous dit, votre texte, le site gratuit de Gallimard. Et puis, votre nouveau roman...
L'unité de la vie.
Nouveau roman, Briser en nous la mer gelée chez Gallimard. Merci du fond du cœur, Eric Orsenna, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Culture Média qui continue dans un instant, nos indispensables du jour. On va parler de cinéma avec Mathieu Charrier. Tout ce qu'on a raté, on va se rattraper. Et puis de la musique avec Angèle Châtelier. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Culture Média qui continue. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour.
On parle musique avec vous, évidemment. On va prendre des nouvelles du duo The Do et leurs nouveaux projets musicaux, car il y a des nouveaux projets.
Et oui, et The Do, c'était ça.
Je sais que je devrais parler, mais j'aime tellement ce passage que je le laissais filer, je le laissais vivre.
C'est vrai. The Do, c'est Olivia Merilati et Dan Levy. Alors, ils n'ont pas sorti d'album ensemble depuis 2014, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ils sont pour l'instant en stand-by. Et ils en profitent pour sortir leur projet en solo, à commencer par Olivia et son nouveau projet appelé Prudence, une sorte d'alter ego, une super-héroïne, un moyen pour elle de faire passer des messages sans être véritablement elle-même. Avant de dévoiler son premier titre, Olivia a publié une vidéo courte hein, sur Instagram à l'allure un peu d'un film de science-fiction. Prudence is powerful, invincible, hard. Prudence is rough, bold, outspoken. Prudence est puissante, invincible, dure. Prudence est rude, audacieuse et franche. Et vous allez être content, Philippe, parce que je sais que vous aimez ce groupe Kraftwerk, un groupe allemand d'électro.
Non mais je l'aime pas, j'adore. Non mais voilà. C'est la base. C'est les gens qui ont inventé la techno et l'électro. On peut même pas. C'est comme si vous me disiez vous aimez Jimi Hendrix ou Led Zeppelin.
C'est vrai.
Voilà, c'est la base.
Groupe allemand d'électro des années 80. Olivia s'en est inspirée pour ce nouveau projet autant que la chanteuse Sia ou le rappeur Drake. Projet d'Olivia Merilati de The Do et elle devrait sortir de nouveaux titres avant cet été et une tournée en septembre, on l'espère.
Et alors que devient son compère, l'autre musicien de The Do ?
Eh bah, Dan Levy n'a pas attendu la pause de The Do pour se consacrer à d'autres projets. Il a par exemple travaillé sur le premier album de Jeanne Hadet, Beans and Sunshine, sorti en 2015. Ils sont même très amis au point d'avoir partagé la scène de l'Olympia en décembre 2015. The Do a invité Jeanne Hadet sur un titre, une reprise de I Love Paris de The Cole Porters et je voulais vraiment vous en faire écouter un extrait juste pour le plaisir. Quoi qu'il en soit, continue en ce moment à faire parler lui avec un mystérieux artiste nommé Scar. On ne sait ni son prénom ni son vrai visage. Dans les clips de lui qui sont sortis, on voit que des films d'animation ou des images de synthèse. Mais avec Scar, Dan Levy a gagné cette année le César de la meilleure bande originale de film pour J'ai perdu mon corps. Le titre, c'est You're the One. Pour l'instant, c'est seulement 3 titres, mais déjà des millions d'écoutes. Et je vous propose d'écouter son nouveau single. Est-ce que ça vous dit
Philippe? Non, comme ça, faire 1 million plus 1.
Voilà.
Évidemment, je le prends.
Voici,
allons-y.
Voici donc The Rest of My Day de Scar, tout de suite sur Europe 1.
It had to be me, keeping up the blame. Turning out to be someone who's trapped inside your hands. It had to be me, falling down again. Falling down on my knees. Hold on, let's start this all again. For the rest of my days, days, I'll be calling your name, name. For the rest of my days, I'll be feeling the same. For the rest of my days, days, I'll be calling your name, name. For the rest of my days, I'll be feeling the same. For the rest of my days, 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 your name, name, name. For the rest of my days.
Bien ce son, c'était Scar avec The Rest of My Days. Vous êtes sur Europe 1, Culture Média continue. Dans un instant, notre deuxième indispensable du jour, et ils sont plusieurs, du cinéma avec Mathieu Charrier, beaucoup de films, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Bonjour, quel enthousiasme, ça fait très très plaisir de vous entendre et surtout chaque mardi pendant cette période de confinement.
Ouais.
Vous rattrapez le temps perdu, vous nous conseillez Mathieu des films à voir ou à revoir en VOD dans son salon et vous commencez Mathieu par le Dumbo mais la nouvelle version.
Oui, disponible notamment sur Canal+. Alors l'histoire n'est pas tout à fait la même que celle du dessin animé, même si le postulat de départ est identique. Nous sommes donc toujours dans un petit cirque itinérant, une femme éléphant donne naissance à son petit qui a de très grandes oreilles. Pas très beau, mais terriblement pratique pour voler. Alors au départ, il va être rejeté par le propriétaire du cirque, qui n'y voit pas beaucoup d'intérêt, avant qu'un patron de grand parc d'attractions veuille le racheter pour en faire l'événement. Alors on retrouve dans le film tous ces thèmes, hein, la différence, la peur de l'autre lorsqu'il ne nous ressemble pas, la famille aussi, socle de la société. Film qui est également très critique envers les cirques ou les parcs d'attractions qui exploitent ces animaux. Donc la magie opère, c'est d'ailleurs tourné en images réelles, avec de vrais acteurs dans une majorité de vrais décors, même si évidemment les éléphants, eux, sont recréés par ordinateur.
Ah, ils volent pas en vrai.
Ils volent pas en vrai, mais il y a des vrais acteurs et des vrais décors, notamment justement lorsque Dumbo doit voler avec sur son dos la trapéziste Colette Marchand, jouée par l'actrice française Eva Green.
Quand mon personnage vole sur Dumbo, c'est un espèce de taureau mécanique, comme les cow-boys dans les rodéos, qui est attaché à un bras au métal, qui s'élève dans les airs. Et ça bouge comme ça, très brusquement. Et il vous rajoute du vent dans les cheveux. On se sent un peu de nouille. Quelquefois, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais après, on redescend et il vous montre des images sur ordinateur. Le réalisme des éléphants, cette texture de peau, l'éclat des yeux, c'est assez extraordinaire.
Et c'est vrai qu'on y croit totalement, hein. C'est un film taillé pour la famille, donc en ces temps de confinement c'est parfait, parce que les enfants découvriront pour certains à cette occasion ce Dumbo, alors que les parents ou grands-parents, eux, seront ravis de replonger dans les souvenirs de ce dessin animé qui a marqué notre enfance. Donc ça s'appelle Dumbo et c'est une version signée Tim Burton.
Et puis autre conseil Mathieu, un film français cette fois, il est signé Hugo Gélin, ça s'appelle Mon Inconnu, avec un E à la fin.
C'est exactement. Exactement. Vous savez, Hugo Gélin, il a ce talent de faire des films à la trame souvent dramatique, mais dont vous ressortez avec le sourire. C'est assez agréable. Alors l'histoire, en l'occurrence, Raphaël, écrivain à succès, il est marié à Olivia, qui vit un petit peu dans son ombre. Elle aime le piano, mais doit renoncer à sa carrière pour que son mari s'accomplisse. Mais une nuit d'orage, magie du cinéma, il se réveille et les rôles sont inversés. C'est-à-dire que Raphaël est un écrivain, mais parfait inconnu. Olivia, elle, est devenue une pianiste célébrée dans le monde entier. Et surtout, ils ne sont plus en couple. Donc Raphaël va devoir tout faire pour retrouver sa vie d'avant et essayer de reconquérir sa femme. Bien que, je vous laisse découvrir la suite, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une fin très réussie. C'est vraiment ce genre de comédie romantique classique à l'anglo-saxonne. Des comédies qui font du bien. Écoutez justement Hugo Gélin, le réalisateur.
L'idée de départ, elle est juste venue d'une angoisse personnelle. Je me suis demandé si j'étais pas, qu'est-ce que je serais devenu si j'avais pas rencontré les gens qui m'entourent dans ma vie, et si j'aurais accédé à mes rêves, est-ce que je serais le réalisateur que je suis heureux d'être, etc. Et quand je me suis rendu compte que cette question-là parlait autant à mes amis qu'à moi, et qu'en fait tout le monde peut se poser cette question, qu'on soit hétéro, homo, en couple, pas en couple, célibataire, divorcé, marié, on peut tous se poser un jour la question de savoir si on a fait les bons choix dans la vie, si on a pris la route de gauche ou la route de droite, si c'était la bonne. Et donc l'amusement de se projeter dans ce qu'est l'Uchronie, c'est-à-dire le fameux « et si », c'est un point de départ pour un film hyper jouissif, sous fond d'histoire d'amour.
Donc voilà, Mon Inconnu, léger, drôle, tendre, je le redis, vraie comédie romantique, vous pouvez regarder ça en famille avec vos ados, vous passerez un super moment.
Et puis autre film français, ce n'est pas un hommage à Benny B, ça s'appelle « Mais vous êtes fous ».
Vous croyez pas si bien dire, c'est qu'il passe la musique en boucle dans le film, c'est pour ça. Porté par Pio Marmaille et Céline Salette, c'est inspiré d'une histoire vraie.
C'est drôle.
Ça, c'est très à la mode en ce moment, c'est inspiré d'une histoire vraie. Alors ça, ouais, vaut le coup. Romain et Camille vivent en couple, ils ont deux jolies petites filles, lui est dentiste, en apparence tout va très bien. Ils mènent une vie familiale équilibrée, mais une nuit, ils sont réveillés par les cris d'une de leurs filles qui est prise de convulsions. Les secours arrivent, elle est tirée d'affaire, mais les analyses révèlent des traces de drogue dans son organisme, de cocaïne précisément. D'où vient cette cocaïne? En fait, rapidement, on se rend compte que le papa, Romain, se drogue chaque jour. Pas une drogue festive, une drogue pour tenir le rythme. Alors comment a-t-il contaminé ses petites filles? C'est l'une des intrigues du film, qui parle aussi beaucoup d'amour, de confiance, parce que sa femme va-t-elle le croire finalement quand il dit que c'était complètement involontaire? La réalisatrice Audrey Diwan s'est en fait inspirée de l'histoire d'une femme qui s'est confiée à elle.
Une semaine avant, elle avait ce qu'elle appelle une vie normale. Et là, on lui avait retiré les enfants. Elle avait découvert que son mari souffrait d'une addiction. Voire, on la soupçonnait alors qu'elle n'a jamais rien fait de sa vie. Et voilà, moi j'ai été très bouleversée d'abord par ce qu'elle me racontait, et puis aussi par la manière dont elle essayait de comprendre ce qui était arrivé à l'homme avec qui elle vivait. Ce que j'espérais, c'est vraiment faire un film sur l'amour et la confiance. À chaque fois et dans chaque geste, on a le droit de se demander si ne se cache pas toujours ce secret, l'addiction, le risque de la contamination.
Voilà, c'est pas blanc ou noir, il n'y a pas de gentil, pas de méchant, les sentiments sont beaucoup plus nuancés que ça. Et c'est aussi ce qui fait la force de cette sorte de thriller conjugal, de thriller amoureux, ça s'appelle donc « Mais vous êtes fous ?» Oh oui, on pourrait rajouter.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, merci à tous. Culture Média, c'est terminé, nous on se retrouve demain à 9h30. Je vous laisse entre bonnes mains, vous allez retrouver Anne Roumanoff et sa bande pour « Ça fait du bien ». Bonne journée sur Europe 1.